Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je me nomme Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy.
Hey, bonjour Mario, ça va bien?
Oui, je vais très bien. Très, très bien.
Toujours pas de COVID?
Non, toujours pas de COVID, effectivement. Ou je devrais plutôt dire oui, toujours pas de COVID. C'est la bonne réponse, mais dans le sens que non, à ce jour, j'ai réussi à m'en tirer. Et d'ailleurs, je me fais vacciner bientôt. 20 avril, mon premier vaccin. Donc, avec beaucoup de monde que je discute, mon premier vaccin, mais qui sera sûrement pas mon dernier vaccin à vie contre la COVID, le Faucifère, je pense que ça sera ça d'être la vie dans les 100, pour les 150 ou 200 ou 300 prochaines années. On va vivre continuellement avec un vaccin, avec un virus comme ça qui va faire partie de, comme la grippe aujourd'hui, elle fait partie de notre vie. On ignore complètement, on ne le voit plus. Ça fait partie de la nature humaine à un moment donné de conquérir les choses et de rendre ça comme une banalité.
Eh oui, éventuellement, mais pas.
Mais aujourd'hui, c'est pas toujours pas une banalité.
Non, et pas tout de suite.
Écoute, Guy,
oui.
Moi, je suis super content du sujet qu'on va aborder aujourd'hui parce que. Il y a un sujet qu'on parle pas assez souvent, mais quand même important en informatique, c'est tout ce qui touche la sécurité. Puis on n'a pas fait beaucoup d'émissions du podcast parce que, par définition, sécurité, s'il n'y a rien de sexy là-dedans, c'est même un peu achalant. Donc je suis content aujourd'hui qu'on va parler de sécurité, mais oui. avec une tournure particulière, c'est-à-dire qu'on va le jumeler avec les opérations. Donc on va parler de SecOps avec Maxime Coquerel. Bonjour Maxime.
Bonjour Mario, bonjour Guy, merci pour cette invitation. Et donc je suis également très heureux d'être là aujourd'hui et de pouvoir échanger avec vous sur la thématique du SecOps. Et donc j'espère qu'on va pouvoir voir ensemble qu'est-ce qu'un SecOps, qu'on va pouvoir entrer dans le cœur du sujet.
Absolument, oui, parce que c'est un sujet qui est super important. En fait, c'est un rôle là qui est quand même, je dirais, assez récent. Là, ça fait pas des vingtaines d'années qu'on parle de SecOps. Mais avant tout, si on parlait un petit peu de ton parcours, tu travailles où présentement?
Donc mon nom est Maxime Coquerel, donc je travaille actuellement pour la Banque Royale du Canada, donc RBC, et donc j'interviens à titre de directeur cloud cloud sécurité, spécifiquement pour la partie architecture de la plateforme Azure. Et puis également à côté de ça, je suis également Microsoft MVP sur les technologies Azure, plus spécifiquement tout ce qui touche autour de Azure Security Center, Azure Policy, la partie gouvernance et régulation. Et puis je suis également très impliqué dans différents meet-up, groupes d'utilisateurs. Donc j'aime énormément partager avec les communautés, que ce soit sur des sujets techniques qui touchent à la sécurité principalement. Pour vous donner un petit peu de background sur mon parcours, du coup moi j'ai une formation qui est une formation en ingénierie en télécom et réseau, puis après ça je me suis spécialisé en sécurité. Et puis j'ai eu la chance de travailler pour différents types d'industries, donc j'ai pu travailler pour des startups à forte croissance. J'ai pu travailler dans le secteur de la santé et de l'assurance. Et puis là, depuis bientôt 2 ans, maintenant, je travaille dans le secteur financier, dans le secteur bancaire. Donc, pour cette organisation-là.
Et puis, tu es à Toronto.
Oui, je suis basé à Toronto, depuis bientôt 2 ans.
Et avant, tu étais à Québec.
Exactement, j'étais à Québec et puis je reste toujours impliqué avec les activités qu'on avait pu démarrer avec.
Ben oui, t'as démarré la communauté Azure là-bas, hein?
Exactement, je suis également toujours très impliqué dans la communauté Azure Québec. Donc on a un meet-up francophone où on n'hésite pas à partager des présentations, des retours d'expérience sur des bonnes pratiques, principalement autour de la plateforme Azure. Donc j'invite tous les auditeurs à regarder notre meet-up. Et puis, du coup, s'ils sont intéressés à rejoindre notre meet-up, en tout cas, ce serait avec plaisir. Donc, une simple recherche, vous tapez « Communauté Azure Québec » et vous allez tomber sur la page du meet-up de la Communauté Azure Québec. Et donc voilà, c'était ma petite introduction.
On va mettre le lien, nous, sur la page pour simplifier le processus. Ouais.
Super, super, parfait. Merci en tout cas pour ça.
Donc, Maxime, si je te demandais, je suis dans l'ascenseur, j'ai pas beaucoup de temps avec toi, faut que tu me résumes très rapidement qu'est-ce que c'est le SecOps?
Alors, le SecOps, c'est l'union de la sécurité et des opérations ensemble. Historiquement, on avait des équipes... donc sur site, donc on avait souvent une équipe d'opération d'administrateur système, une équipe sécurité, une équipe de développeurs et une équipe d'architectes. Et toutes ces équipes étaient vraiment décorrélées les unes des autres et on pouvait se rendre compte souvent qu'il y avait pas mal de problématiques de communication, d'échange entre ces différentes équipes. Et avec l'arrivée du cloud, des plateformes de public cloud comme la plateforme Azure, on a vu naître en fait des nouveaux types de métiers, dont le métier de SecOps. En fait, ce sont essentiellement des personnes qui ont un fort background opérationnel. Donc, historiquement, le plus souvent, ce sont des anciens administrateurs système, mais qui avaient un attrait qui était quand même assez fort pour la sécurité. Et donc est née cette nouvelle profession. Donc, c'est vraiment une union entre des activités de sécurité et des activités d'administration système opérationnelle.
Parce que les gens doivent connaître le terme DevOps, puis SecOps, ça ressemble un petit peu, mais c'est vraiment un rôle différent, là.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un rôle différent parce que le DevOps, c'est essentiellement des développeurs avec une partie opération, que là, dans ce cas-là, avec le SecOps, c'est essentiellement des personnes du monde de la sécurité avec également des personnes qui viennent du monde des opérations, de l'administration des systèmes.
Et puis, dans des entreprises ou des projets un petit peu plus petits, on voit aussi le terme, en fait, la fusion des deux rôles, DevSecOps.
Exactement. C'est un excellent point. La partie DevSecOps, donc ce sont des personnes qui vont donc avoir ce background de sécurité, d'opération et également un background de développeur. Donc ce sont vraiment un petit peu des personnes à trois têtes.
C'est beaucoup de chapeaux à porter, je trouve, moi.
Exactement, si on peut imaginer ça. Après, moi, dans mon quotidien, je travaille tous les jours, on a une équipe de DevSecOps. Et donc, cette équipe de DevSecOps, pour vous donner des exemples d'actions concrètes qui sont réalisées par ces équipes-là, on va, par exemple, dans une plateforme cloud comme Azure, on va développer ce qu'on appelle des contrôles de sécurité. Donc, on a des contrôles de sécurité qui peuvent être détectifs pour simplement faire de la détection et des contrôles de sécurité qui vont être préventifs. C'est-à-dire qu'on va vous limiter, par exemple, dans le déploiement d'une certaine action. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des Azure Policy, donc qui sont spécifiques à la plateforme Azure. Donc, ça va être vraiment des manifestes, en fait, qui vont vous permettre d'auditer, qui vont vous permettre de configurer certaines ressources et d'imposer aussi certaines limitations à des ressources. Pour vous donner un exemple vraiment concret, vous avez une souscription Azure. Et vous avez vos développeurs qui jouent dans cette souscription-là et prévenir le déploiement des ressources Azure dans certaines régions. Par exemple, vous voulez autoriser uniquement la région Canada centrale et la région Canada est dans votre souscription Azure. Et donc, pour pouvoir appliquer cette limitation-là, vous allez créer ce qu'on appelle une Azure Policy que vous allez appliquer à votre souscription et quand vos développeurs vont essayer de déployer, je sais pas, une nouvelle machine virtuelle ou une nouvelle base de données, par exemple, ils vont déployer ça, ils vont être autorisés à déployer ça uniquement dans la région Canada centrale ou Canada est. Si un développeur essaye de déployer une base de données dans une région telle que la région East US, par exemple, ou une région en Europe, le développeur va se retrouver bloqué, il va avoir un joli message d'erreur lui disant qu'il ne peut pas effectuer ce déploiement parce que ce n'est pas conforme au cadre de gouvernance de l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple un peu concret du métier de DevSecOps. Donc ce sont vraiment des personnes qui vont travailler au développement et à l'écriture de ces contrôles de sécurité-là. Donc c'est un des exemples hein, d'activité.
Maxime, ton exemple m'amène une question qui moi m'intrigue, puis on va faire une petite parenthèse. Imaginons que le scénario que tu donnes, on voudrait pas juste limiter les développeurs à une région, mais on voudrait les limiter aussi sur dans notre souscription. C'est-à-dire qu'on voudrait pas qu'ils déploient jamais rien qui serait comme dans nos environnements de production ou dans nos environnements de staging, mais juste dans des environnements de dev. J'imagine qu'il y aurait moyen à ce moment-là, juste avec nos fameux tags ou en tout cas nos façons d'identifier les environnements, de dire OK, cet environnement-là est un environnement de dev, et après ça, avec une policy, venez dire ah, lui, il a le doigt là, mais il aurait jamais le doigt, mettons, sur un environnement qui serait tagué prod, par exemple.
Exactement, c'est un exemple qui est tout à fait possible et donc qui peut être très simplement fait avec des Azure Policy. Et on va pouvoir restreindre aussi, on va pouvoir jouer avec ces notions de restriction par tag pour les déploiements, comme l'exemple que tu donnes. L'objectif derrière, en fait, c'est vraiment de mettre en place un certain cadre, en fait, et d'éviter en fait ce qu'on appelle les mauvaises configurations. Donc je pense que si vous suivez un peu l'actualité, puis vos auditeurs suivent l'actualité, on a tous vu des brèches de compagnies financières ou de grandes institutions qui se retrouvent avec un grand volume de données directement exposées sur Internet. Pourquoi ? Le plus souvent, en fait, dans 80% des cas, il s'agit d'une mauvaise configuration. Vous avez, par exemple, un compte de stockage qui a été créé, il y a une mauvaise configuration qui s'est passé et le compte de stockage est directement exposé sur Internet sans restriction. Dans le cas où une organisation avait une Azure Policy en place pour prévenir la création de comptes de stockage public directement sur Internet, ce sont des choses qui sont pas possibles en fait. Ce sont des choses en fait on impose vraiment un certain cadre de gouvernance et donc on bloque ces certains comportements en fait qu'on peut juger à risque.
Mm-hmm. Ouais, on entend souvent là des brèches, ça commence tout simplement par un bucket S3, mettons sur AWS là qui a été laissé ouvert. Bon, même chose sur Azure avec le stockage Azure là, mais c'est à partir juste d'une mauvaise configuration là finalement.
Exactement. Le plus souvent, la majorité des ce qu'on appelle des leaks de données en fait, des fuites de données pardon, sont des données qui sont dues à des mauvaises configurations qui sont en place. Et puis du coup, si je peux me permettre de, par exemple pour vos auditeurs, s'ils veulent regarder un petit peu plus ce qui se passe, il y a ce qu'on appelle des plateformes de bug bounty. Ce sont des plateformes où une société va dire moi j'autorise tout le monde à essayer de me pirater, à essayer de trouver les mauvaises configurations que j'ai pu mettre en place sur mon système. Et au lieu de diffuser cette information publiquement sur Internet, vous allez me rapporter cette information-là. Et donc moi, je vais vous donner une compensation financière par rapport à l'information que vous me rapportez. Et donc, on peut souvent, après quelques années ou même après quelques mois, une fois que la mauvaise configuration a été patché, souvent on peut voir ce qu'on appelle des write-up qui vont être des comptes rendus et qui vont expliquer comment la faille a été exploitée ou comment la mauvaise configuration a été exploitée. Et le plus souvent, en fait, on se rend compte que en fait ça vient vraiment de mauvaises configurations, que ce soit un bucket directement exposé sur Internet ou encore un développeur qui a fait un commit dans un repo Git public et qui a commité par exemple un token ou un secret. Ça, ce sont des choses que en fait les équipes de sécurité, que ce soit des équipes de sécurité comme une équipe SEC DevOps, vit régulièrement en fait, parce que ce sont des mauvaises pratiques qui arrivent et donc on cherche à prévenir ça. Et donc pour prévenir ces mauvaises pratiques là Donc oui, on va pouvoir auditer ce qui a été posté directement dans un repo Git, mais on va également trouver une autre partie, et ça, je pense que c'est une partie qui est assez intéressante, c'est une partie qui va être sur la détection de menaces. Et donc là, dans ce cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir utiliser des outils tels que Azure Security Center, avec le mode Azure Defender, qui vont nous permettre de détecter qu'une menace, qu'on a par exemple une connexion sur une de nos bases de données qui arrive directement, enfin une connexion dont la localisation est basée à Paris sur une de nos bases de données, alors qu'on n'a jamais travaillé avec le marché européen, il y a peut-être des questions à se poser. Donc ça, ça va nous permettre en fait de détecter ce type de menace-là. Et l'objectif, c'est de transférer ces menaces-là directement à des solutions, à des équipes de, enfin, à des solutions de journalisation, des SIE, de ce qu'on appelle des SIEM. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir des équipes d'opération, dont des personnes qui font partie des équipes SecOps, ou encore des personnes qui font partie de SOC, de Centre de Sécurité Opérationnelle, qui vont recevoir ces alertes-là, qui vont traiter ces alertes-là, qui vont regarder est-ce que c'est un faux positif, par exemple. Et donc, ces équipes-là vont pouvoir regarder ça en détail et donc notifier les bonnes personnes, les personnes adéquates, et donc fixer également ces mauvaises configurations-là.
Fait que là, tu as nommé plusieurs groupes, plusieurs rôles et tout ça. Ça, c'est dans la grande entreprise.
Oui, là. Oui, tout à fait. Là, je parle vraiment pour des grosses organisations. Dans des plus petites organisations, souvent, en fait, on a une ou deux personnes de sécurité qui vont avoir tous ces chapeaux-là, en fait. Donc, ils vont avoir le chapeau du rôle du SecOps, qui vont avoir également un chapeau pour la partie SEC DevOps et également une partie pour tout ce qui va être vraiment sécurité opérationnelle, recevoir les alertes, etc. Donc souvent, c'est pour ça que ce sont des postes qui sont, moi, de mon avis, qui sont assez intéressants parce que ce sont des postes où vous n'avez jamais la même routine, en fait. Ce sont des postes qui changent énormément avec du contenu qui évolue énormément. Et puis là, on tombe sur un autre enjeu qui est, à mon sens, aussi vraiment important, c'est comment se mettre à jour, en fait. C'est ça, la question. C'est comment se mettre à jour et comment rester à jour par rapport à ce que j'allais dire. Ça devient de plus en plus complexe. On voit des plateformes comme Azure, on voit la quantité de services que ces plateformes ont. Ça devient très compliqué de devenir un expert de l'ensemble de ces services et même quasiment impossible. Donc, c'est pour ça qu'on voit vraiment des gens qui se spécialisent sur certains types de services. Et donc ils font ces choix-là. Et pour se maintenir à jour, le plus souvent en fait, ces personnes-là essayent de suivre l'actualité, de se former sur des plateformes comme Microsoft Learn, par exemple. Vous avez des cours en sécurité pour la plateforme Azure qui sont disponibles, qui sont gratuits. Moi, ce que je vous recommande, c'est également de venir assister à des meet-up. C'est également une autre bonne façon de rester à jour, de se rendre compte de ce qui se passe également à l'extérieur de votre entreprise.
Mm-hmm. Juste pour revenir sur les exemples d'activités que tu nous as énumérées, si je comprends bien, il y a comme deux grandes catégories. Il y a tout ce qui touche la prévention. Là, tu nous parlais des exemples avec des politiques Azure. Et un autre domaine qui est tout ce qui est la détection, qui est quasiment comme l'analyse en temps réel de qu'est-ce qui se passe sur nos systèmes. Est-ce que je suis en train de trop simplifier ou on peut compartimenter les exemples en d'autres catégories que ces deux catégories-là?
Donc là, je vous ai donné deux exemples qui sont deux exemples opérationnels, donc avec de personnes qui vont agir d'un point de vue opérationnel, mais également on retrouve d'autres métiers, on retrouve également des métiers qui sont liés à tout ce qui va être régulation et compliance. Vous êtes par exemple une organisation qui traite des numéros de carte de crédit dans vos applications, vous allez avoir de la conformité à respecter et donc vous avez des normes à suivre. Par exemple, dans ce cas-là, c'est la norme PCI DSS et donc ça, c'est également un autre type de métier qui va travailler le plus souvent avec le département légal, avec les équipes d'opération également. Donc ça, c'est vraiment le troisième grand pôle de métier qu'on peut retrouver en sécurité.
Ok. Et toi, dans ton, je veux pas te faire dire des choses qui sont qui pourrait être pas du domaine public, mais toi, dans ton métier, est-ce que tu es spécialisé dans un de ces trois domaines-là ou tu touches plus qu'un domaine?
Alors moi, dans mon métier, en fait, je suis vraiment spécialisé dans la partie architecture de sécurité. Donc dans mon cas, en fait, moi, je travaille en collaboration avec les développeurs, les architectes d'entreprise, à faire des revues d'architecture pour être sûr que l'on respecte bien un ensemble de bonnes pratiques de sécurité. Ce que je peux expliquer, c'est qu'on a des standards internes de sécurité à respecter, ce qu'on appelle dans le cadre de la sécurité cloud, on appelle ça des cloud control, donc qui sont des contrôles de sécurité qu'on doit retrouver, en fait, qui sont souvent issus de bonnes pratiques de l'industrie et qui sont issus également de certains cadres réglementaires.
OK. Donc, toi, dans ton métier d'architecte, SecOps ou architecte de sécurité, tu te retrouves à être en interaction beaucoup avec les équipes de développement à ce moment-là.
Exactement.
Donc, moins en interaction avec les équipes opérationnelles. Ou est-ce que tu te retrouves aussi des fois, quand tu as revu d'architecture, à aborder avec les autres comment le déploiement va se faire, ou tu t'arrêtes vraiment à juste analyser l'architecture propre de la solution indépendamment de sa... De comment se déploie, parce que de plus en plus, le déploiement, c'est quelque chose qu'on peut interchanger, dépendant comment est-ce qu'on, surtout avec les technologies des conteneurs, on peut quasiment abstraire cette partie-là, là, ou en tout cas la voir comme étant un autre problème ou un autre axe de la solution globale.
Non, dans mon cas, moi, j'ai la chance, en fait, d'avoir un poste où, en fait, je travaille vraiment de ce qu'on peut dire de bout en bout, c'est-à-dire de l'architecture jusqu'à la livraison du projet. Donc j'ai également une seconde partie où dans ce cas-là, je travaille avec les équipes opérationnelles, donc de sécurité opérationnelle, pour s'assurer que l'ensemble de nos contrôles de sécurité sont bien en place une fois que l'application a été déployée avant de mettre cette application en production. Donc c'est vraiment un rôle qui est vraiment transverse.
Mm-hmm. Donc là, tu me parles du rôle d'architecte de sécurité. Si on revient au rôle SecOps, y a-tu des métiers comme ça avec un terme bien précis que tu connais à part architecte sécurité? Est-ce qu'il y a d'autres types de métiers associés au SecOps?
Donc on a également ces DevSecOps dont on a parlé mm-hmm. Tout à l'heure, qui vont être plus sur la partie développement. On retrouve également des interactions avec des gens qui viennent d'équipes DevOps dans ce cas-là.
OK.
Voilà. Et après, de temps en temps, il se peut, on a également un autre métier qui est arrivé depuis peu, qui s'appelle le FinOps. Le FinOps, c'est plus la partie financière. Donc, ce sont des gens qui ont un background financier avec les opérations et qui vont travailler à regarder comment ils peuvent optimiser vos factures cloud. Donc, ça, c'est vraiment mm-hmm. encore un autre métier. Donc, le plus souvent, les personnes des équipes SecOps, on peu d'interaction avec les équipes financières. Du moins, on essaye d'en avoir le moins possible.
Ouais, mais d'un autre côté, ça peut être important parce que si une option coûte 10 fois plus cher que l'autre option, puis que d'un point de vue technique, c'est interchangeable, mais tu veux peut-être la solution qui coûte 10 fois moins cher. Hein? Mm-hmm. Parce que ici, quand tu parles de financière, c'est les coûts. Donc, tu peux te retrouver avec des coûts astronomiques là, de cloud à la fin du mois. Là.
Exactement. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette profession-là, de regarder comment optimiser les architectures qui ont été déployées, les architectures qui vont être déployées. Donc, ouais. Il y a une grosse partie d'optimisation. Et ça, ce sont, comme le rôle de SecOps, ce sont des métiers qui n'existaient pas, à ma connaissance, il y a 5-6 ans. Et ces métiers-là étaient quasiment inconnus. Et donc, je reviens encore une nouvelle fois sur le challenge de la formation. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir donc se former, maintenir ses compétences. Le challenge, il est là parce que la plateforme évolue à une vitesse qui est mm-hmm. complètement folle. Et donc, si je peux me permettre de vous partager quelques bonnes pratiques, ça va être vraiment vous pouvez regarder le suivi de formation. Vous allez pouvoir regarder pour avoir des formations spécifiques. Puis vous vous rendez compte que ben ce que vous avez appris il y a un an, ben peut-être que 6 mois après ça a évolué et donc Donc tout l'intérêt de rester vraiment à l'affût en fait des dernières annonces. On a la chance, si je peux me permettre de dire que c'est une chance, en ce moment, avec cette période de Covid, l'ensemble des conférences, la majorité des conférences sont gratuites, et donc vous pouvez suivre les conférences en ligne directement. Donc ça, c'est, je pense que c'est également quelque chose qui peut être intéressant pour de nombreux étudiants, par exemple, qui n'ont pas forcément un budget à dédier pour pouvoir aller assister à des conférences, à des grandes conférences telles que Microsoft Ignite, par exemple. Ces personnes-là vont pouvoir assister à ces conférences-là directement en direct, en live, via Internet. Et donc ça, c'est également une belle source de formation, en tout cas que je recommande fortement.
Parce que là, Azure, là, c'est énorme. Là, hein? Il faut s'entendre, il y a des centaines de services. Puis, t'as pas le choix d'avoir le focus sur quelques services. Tu peux pas tous les connaître.
À mon sens, c'est strictement impossible de connaître l'ensemble des services. Parce que chaque service a aussi un certain degré de complexité à maîtriser. Donc, vous êtes obligé de faire des choix. Et donc, vous allez devoir vous spécialiser, choisir certains services, et puis si vous n'avez pas l'expertise en interne, donc vous avez deux choix, soit vous former pour apprendre cette nouvelle expertise, soit faire appel à des ressources externes, c'est-à-dire à des consultants ou travailler en collaboration avec d'autres compagnies. Maintenant, c'est...
Mais Maxime, avant de se poser la question comment on va suivre puis être en mesure de décider notre domaine d'expertise, est-ce qu'il existe comme une formation un peu généraliste autour de la sécurité? C'est-à-dire, comme par exemple, tu parlais que tu as conformité, tu as la prévention, tu as la détection, mais si quelqu'un, tout ce qu'il sait faire dans sa vie, c'est s'est concentré à prendre la détection, puis il est toujours en train de détecter, mais il fait aucune action de prévention, il va travailler fort en détection parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se régler avec la prévention. Donc, y a-tu comme une formation un peu générique que quelqu'un pourrait suivre juste pour comprendre les bonnes pratiques ou les bons principes de gestion de la sécurité? Est-ce que ça existe ça, dans l'industrie?
Oui, tout à fait. Ça existe dans l'industrie. Vous avez des formations qui sont des formations génériques, le plus souvent qui sont associées à certaines certifications. Vous avez par exemple la certification Sécurité Plus ou encore la certification CISSP. Ce sont des formations qui vont vous permettre de maîtriser les fondamentaux de la sécurité. Donc pour quelqu'un qui voudrait démarrer en sécurité, moi c'est quelque chose que je peux recommander de regarder pour suivre un cours en ligne pour préparer une de ces certifications-là de façon à avoir un minimum de base. Mais après, ce qui est vraiment important, et c'est vraiment d'essayer de faire des laboratoires, c'est-à-dire souscrire un abonnement à Azure, regarder pour commencer à déployer des services, essayer de comprendre comment ça marche, de faire des choses concrètes.
Mm-hmm. Parce qu'une formation universitaire, j'imagine que c'est pas, y en a pas encore où on te forme plus au niveau du networking en général, au niveau de l'infrastructure, télécom.
Oui, dans mon cas, moi, je suis sorti de l'université il y a 10 ans, et il y a 10 ans, on était encore avec des formations très axées sur la partie réseau et télécom. Et oui, on avait des cours de sécurité, mais c'était des cours de sécurité qui étaient appliqués au monde du réseau en fait, et qui sont maintenant pas forcément applicables à ce qu'on peut retrouver dans des environnements cloud. Donc, ils sont.
Mais ça évolue quand même assez rapidement parce que l'autre jour, je prenais connaissance. Bon, moi, je suis diplômé de l'École Polytechnique à Montréal, qui est une grande école d'ingénieurs montréalaise, qui n'est pas l'équivalent de l'École Polytechnique de Paris, on s'entend, mais qui est sur le même, un peu le même modèle pour ce qui serait la nation québécoise. Et eux, depuis plusieurs années, il y avait un diplôme qui offrait en cybersécurité. Et là, ils viennent d'annoncer qu'ils vont offrir maintenant un baccalauréat cybersécurité, ou en tout cas une spécialisation en cybersécurité quand tu fais le Gini Info. C'est ce que j'ai pu comprendre entre les lignes. Puis là, je me disais, ah, tiens, c'est intéressant. On voit que quelque chose qui était plus au niveau de la maîtrise, maintenant devient au niveau du bac. Et ça démontre quand même l'importance d'avoir que la cybersécurité vient omniprésente là.
Et puis oui, et puis ça je pense que c'est également une réponse aussi au marché de l'emploi, parce qu'on peut voir en ce moment qu'il y a un marché de l'emploi qui est très dynamique et très porteur pour les emplois en sécurité. C'est quand même assez compliqué, c'est un vrai défi pour de nombreuses entreprises. Puis là, je parle dans mon cas, c'est vraiment un défi de trouver des personnes qui ont un background en sécurité. Et encore plus en security cloud, c'est quelque chose qui devient vraiment vraiment complexe. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment à mon sens très intéressant d'avoir des formations comme les formations dont tu parles, Mario, des formations universitaires pour encourager les jeunes à aller dans cette direction-là. Et puis une autre façon également de, si je peux dire, de tomber dans la marmite et de pratiquer en sécurité, c'est regarder. Là, je parle essentiellement pour des étudiants. Regardez pour vos stages. Souvent, même si vous avez un parcours qui peut être un parcours en développement logiciel, ça peut être intéressant pour une équipe sécurité de vous prendre en stage. Et donc, je sais que dans l'entreprise dans laquelle je travaille, là, dans un mois, là, on va avoir deux nouveaux stagiaires là dans notre équipe. Et ils n'ont pas forcément un parcours en sécurité pure, mais il y en a un qui a un parcours en développement et un autre qui a un parcours en plus en réseau et télécom. Et donc, ils vont être en immersion pendant 6 mois au sein de nos équipes. Et ils vont apprendre énormément, si je peux dire, via le transfert de compétences que mes collègues vont réaliser et que l'on va réaliser avec ces personnes-là.
Oh mon Dieu, comment on faisait à l'époque, là, quand on a commencé le métier, c'est-à-dire que les jeunes étaient formés dans l'entreprise, puis ils restaient pendant plusieurs années, puis il y avait comme un partage de connaissances, puis tout le monde, c'était un monde... le mettant qui est un peu utopique, là.
Oui, tout à fait.
si on revient sur... Bon, justement, tu donnes l'exemple des gens qui vont devenir stagiaires. Donc, les connaissances de base donc, on sait qu'on peut aller faire de la formation un peu plus générale, mais si je comprends bien, aujourd'hui, là, si ça t'intéresse la sécurité, tu devrais aller chercher, maximiser tes connaissances autour du cloud. Donc, ce que je comprends, c'est que ça serait un bon investissement d'apprentissage, de comprendre le cloud.
Complètement.
Oui, puis je dirais en premier, il faut que tu spécialises en infrastructure.
Exactement. Aussi. Il faut avoir un minimum de base en infrastructure pour comprendre comment ça fonctionne avant de pouvoir faire le pas vers la partie cloud.
OK. Et à ce moment, puis avoir quelqu'un qui a un profil où est-ce que, comme beaucoup de nos auditeurs, que, mettons, aujourd'hui, c'est un programme à web. Ça fait 2-3 ans qu'il fait de la programmation, mais là, il se dit, je fais quoi, là? Je m'en vais où dans le futur? Est-ce que c'est un cheminement initial qui peut quand même être intéressant de partir du développement puis s'en aller où? Parce que c'est sûr que si tu es dans les opérations, tu es en infrastructure, ta job à tous les jours, c'est monter, je sais pas, moi, des serveurs, tu es dans une vieille organisation où tout est on-premise, puis là, tu montes des serveurs, par exemple, ou puis là, tu te dis, non, là, je veux m'en rendre vers la cloud, ça a du sens. Mais pour les développeurs, est-ce que ça a du sens aussi?
Pour des développeurs, je pense que ça a même encore plus de sens que les personnes d'opération. Parce que dans la partie cloud, il y a également une grande partie de ce qui va être l'automatisation des actions. Donc, qui va être de créer des scripts de déploiement automatisés, qui va être d'automatiser la création de, par exemple, d'Azure Policy, de politique de conformité. Je le vois dans les équipes avec lesquelles je travaille là, notre équipe de DevSecOps à 90%, ce sont des anciens développeurs qui se sont reconvertis pour faire de la sécurité cloud.
Ouais, je vois là, je pense que je comprends là, c'est-à-dire que j'ai un background de développeur. OK. Là, je commence à toucher à la partie opération, c'est-à-dire d'automatisation comme tu disais tout ça. Puis là, j'ai pas le choix aussi de commencer à comprendre certaines notions de sécurité, certaines notions de qui sont applicables au niveau des opérations. Donc j'ai un pied, finalement, je commence à avoir un pied dans la partie sécurité veux pas, là, malgré moi, parce que il faut que je comprenne certaines de ces notions-là pour pouvoir appliquer des notions de DevOps comme il faut.
Exactement. Exactement. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une transformation des types d'emplois, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on a été 10 ans développeur front-end, par exemple, qu'on ne peut pas se former sur de la sécurité cloud. En ce moment, il y a énormément d'opportunités. Et donc, moi, j'encourage vraiment les personnes qui sont dans un rôle ou qui veulent changer de rôle, donc les personnes qui veulent vraiment faire autre chose, à s'orienter vers la partie sécurité cloud et ces nouveaux métiers-là, en fait.
Ouais, puis si on a déjà un petit peu la piqûre, c'est-à-dire que je suis développeur, mais hey, j'aime ça le configurer le je sais pas moi le networking ou je sais pas moi chez moi j'ai 2, 3, 4 serveurs, j'ai des Raspberry Pi que je mets en réseau, puis là je mets des firewalls, puis je suis un top notch en Linux, puis fait qu'on voit déjà c'est comme inné là chez la personne.
Oui, et c'est pour ça que je pense que ça vaut le coup en ce moment de faire le saut dans ce bain-là, si je peux me permettre de dire ça. Et puis une fois que vous allez avoir une expérience, deux expériences dans ce domaine-là, vous allez vous rendre compte du nombre d'opportunités professionnelles qu'il y a également aussi sur le marché. C'est un marché qui bouge énormément. Les gens qui sont formés en sécurité cloud reçoivent énormément d'offres d'emploi, donc avec des missions qui peuvent être vraiment vraiment différentes. Donc ça, c'est encore quelque chose, je pense, qui peut également motiver en fait de nombreux développeurs à vouloir se lancer dans la partie sécurité cloud.
Est-ce que ça veut dire que par exemple quelqu'un qui s'en irait plus en sécurité, Il va continuer, par exemple, à utiliser un outil comme Visual Studio Code. La grosse différence, c'est qu'au lieu, par exemple, de programmer du TypeScript, JavaScript, une bonne partie de sa journée, il va plus être dans un langage de script qui serait du PowerShell ou quelque chose d'équivalent pour justement automatiser des mises en place de règles de prévention ou de règles de détection. Ça serait plus ça maintenant que le métier de ce développeur-là.
Exactement, c'est exactement ça. Moi, je le vois avec les personnes avec lesquelles je travaille. On utilise Visual Studio Code tous les jours. On fait des commits dans Git tous les jours, parce que maintenant toute la partie infrastructure, c'est du code. Il faut le voir vraiment comme du code. On parle d'infrastructure as code, mais on parle également de sécurité as code. Tout est du code. Donc pour un développeur, en fait, son environnement va pas forcément changer. Les principaux langages qui sont utilisés, certes, il y a du PowerShell, mais également un développeur Python. On utilise énormément le langage Python pour toute la partie automatisation. Donc ça, c'est également quelque chose qui peut être intéressant.
Ah, c'est intéressant.
C'est drôle parce que il y a quelques années, les spécialistes en infrastructure là, à l'arrivée de PowerShell, il y en a beaucoup qui ont eu peur, puis qui ont pas fait le saut tout simplement. Puis là maintenant, c'est comme c'est à une coche plus élevée là. C'est vraiment là, va falloir que tu programmes pour faire ton métier.
Exactement. On est une grande partie de programmation, surtout dans ces métiers de SecOps et SecOps avec la partie automatisation et SecDevOps. Donc là, dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, toute la partie sécurité, la partie sécurité, tout ce qui va être création des politiques de sécurité, des contrôles de sécurité, tout ça, ce sont du code, en fait, sont du code qu'on déploie. Donc concrètement, pour un développeur, ça va pas le changer énormément. C'est juste le type de projet qui va être différent pour lui.
Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un développeur parce que, par exemple, Git, il maîtrise déjà ça. Tandis que quelqu'un qui vient vraiment pur et dur, qui venait du monde d'opération, qui avait l'habitude d'être dans son écran de contrôle, que là, on dit non, maintenant, tu vas tout coder. Première chose, il va dire, c'est quoi, c'est un gestionnaire de code source, parce qu'il a peut-être jamais utilisé ça de sa vie. Donc, le chemin est beaucoup plus ardu. Puis bon, là, je mets le cas extrême. Là.
Ouais, tu simplifies un peu les choses parce que
c'est juste pour donner une image, là.
Et c'est ardu, les opérations, là, hein? C'est complexe, là, parce que là, maintenant, tu as des systèmes distribués. Avant, tu étais limité à l'entreprise. Là, maintenant, tu as des systèmes qui vont vers le cloud, tu as des ponts, tu as des VPN, c'est d'une complexité incroyable, là, Maxime.
Ah oui, tout à fait. La complexité est vraiment incroyable. Et donc, c'est pour ça que sans la partie automatisation, maintenant, ça devient vraiment compliqué à gérer ça, surtout pour de grandes entreprises.
Et c'est encore 10 fois plus compliqué dans la mesure où est-ce qu'il y a des technologies il y a des solutions qui se compétitionnent. Je pense entre autres à Kubernetes, c'est pas le nommé, qui, oui, a des problèmes bien spécifiques qui résolvent, mais il y a des choses où est-ce que là, tu dis, ouais, mais là, ils sont en train de refaire quelque chose qui existe, mais déjà, mettons, avec dans une certaine solution Azure, puis là, il faut se poser la question, je veux-tu le faire dans Kubernetes ou je veux le faire à travers les services d'Azure? Puis après ça, et souvent, ça vient du fait que la communauté open source qui est derrière Kubernetes, ben elle travaille peut-être pas dans Azure, elle travaille peut-être dans Amazon tout le temps, puis ou elle travaille avec d'autres outils, qui fait que tu dis, ouais, OK. Donc, faut vraiment que tu maîtrises les subtilités ou les... Il faut comprendre les agendas cachés de certaines des technologies qui essaient de reproduire des choses qui... Puis ça sera pas la première fois, on a toujours vu ça, là, 3-4 approches pour régler un problème qui se compétitionne, puis chacun avec ses plus, chacun avec ses moins. Là. C'est toujours ça qui est difficile. D'où pourquoi ça prend des gens qui ont un background plus en architecture pour démêler le vrai du faux, ou en tout cas démêler ce qui est beaucoup de la fumée des fois pour essayer de faire à croire que cette solution-là, c'est ça qu'il faut absolument apprendre.
Oui, puis c'est un peu comme revenir à ce que tu disais, Maxime, tout à l'heure, c'est-à-dire faut être curieux, faut assister à des conférences en ligne, des meet-up, faut se tenir au courant, donc faut vraiment passer beaucoup de temps là, à faire des recherches là, puis à faire des lectures.
Oui, pour moi, je pense que c'est vital. En fait, c'est vraiment la clé du succès, en fait, de pouvoir s'adapter. Moi, je le vois dans les entretiens que l'on fait passer, par exemple. On va essentiellement essayer d'identifier des candidats, en fait, qui sont capables d'apprendre rapidement, qui sont capables de se remettre en question, et surtout qui sont curieux, qui vont aller chercher de l'information à droite, à gauche, qui vont essayer de chercher des solutions. Et on va essentiellement valoriser ce type de candidat versus à des candidats qui ont déjà une compétence acquise sur un produit, une technologie vraiment spécifique, mais qui vont vouloir rester uniquement sur cette technologie-là. Donc, je pense que le fait d'être curieux, le fait d'être passionné également par ce qu'on fait, sont des choses qui sont vraiment, vraiment super importantes.
Oui, il faut que tu fasses la veille, parce que si, par exemple, là, il y a une brèche qui sort demain matin, puis toi, tu ne suis pas ça réellement, puis tu es au courant seulement un mois après, une fois que ton système a été compromis, ben... C'est pas la bonne chose à faire, là. Donc, faut vraiment être curieux. Puis, c'est un élément important là, du métier, je comprends. Là.
Surtout que la réalité moderne, tu sais, on met souvent l'image pour expliquer pourquoi il y a une certaine complexité à comprendre comment les décisions sont prises autour de la crise de la COVID. Les gens disent, ah, mais c'est parce qu'on construit l'avion en même temps qu'on est passager dans l'avion. Mais cette réalité-là, elle existe depuis toujours en informatique, là. À toutes les 3-4 ans, toutes les technologies à peu près utilisées ont été changées, soit par des nouvelles versions ou par des solutions complètement différentes. Et si on n'est pas en mesure d'être en formation continue, ça prend pas de temps, là, qu'on est complètement déphasé, on n'est plus vraiment en mesure d'amener de la valeur à notre employeur, là. C'est ça, d'où pourquoi vous cherchez des gens qui sont toujours à l'affût d'apprendre des nouvelles choses, là.
Des gens curieux.
Des gens curieux, essentiellement, oui, c'est vraiment le terme. Des gens curieux, des curieux passionnés qui sont capables de s'adapter également à de nouvelles situations, qui sont capables d'apprendre rapidement. Je pense que la partie, souvent on dit, on fait des formations pour apprendre à apprendre. Mm-hmm. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important, et même beaucoup plus important que juste comprendre une technologie en tant que telle. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose.
Ouais, puis je sais pas si c'est toi, Maxime, qui a dit ça ou Mario, se remettre à, être capable de se remettre en question. Je pense que Maxime, tu l'as mentionné tout à l'heure. Ça, c'est primordial là, parce que ce que tu as appris jusqu'à date à ce jour, ben demain, ça peut peut-être être complètement à 360 là, ou à 180 degrés plutôt. puis faut faire les choses d'une autre façon.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis on voit que les métiers se transforment. Si je peux me permettre de partager une petite anecdote, quand j'ai commencé à travailler en 2008, je travaillais avec une personne qui avait fait de la téléphonie analogique, qui déployait donc des centres d'appels technologiques, etc., et qui m'expliquait que quand il y a eu le passage entre tout ce qui va toute la téléphonie analogique et ce qu'on appelait à l'époque la VOIP, il y a énormément de personnes qui n'ont pas voulu faire l'effort de se former. Mais qu'est-ce qui s'est passé 5, 6, 7 ans plus tard? Ces personnes-là se sont retrouvées quasiment sans emploi parce que la technologie avait évolué, le marché avait changé, mais ils étaient restés avec des connaissances acquises qu'ils n'ont pas fait évoluer et donc ils se sont retrouvés complètement bloqués.
Ouais, mon exemple tout à l'heure là de IT pro spécialiste en infrastructure qui voulait pas apprendre PowerShell, ben aujourd'hui ils sont complètement désuets.
Ah ben complètement.
Puis c'est vrai que quelqu'un qui dit ben là j'ai appris PowerShell, c'est mon langage de script. Il y a tellement de choses qui viennent maintenant avec des frameworks autour de qui sont implantés en Python. T'as intérêt à comprendre Python parce que tu l'auras pas en PowerShell, là. Donc d'où pourquoi il y a beaucoup d'adoption de Python, c'est que c'est pas juste le langage, c'est des solutions open source qui ont été développées avec ça que toi tu peux réutiliser aisément dans ton travail journalier. Puis c'est ça qui est. Puis là, je pense entre autres tout le domaine du big data là, où est-ce que Python est omniprésent là.
Oui, mais encore une fois, on te demandera pas de coder des applications web ou des applications en AI. Là, tu vas focusser sur l'utilisation de Python pour ton métier, pour tes besoins.
Exactement.
Mais ça te demande quand même d'avoir l'ouverture de dire, ah, je vais apprendre Python, puis quand tu y penses, ben écoute, c'est juste un autre langage, c'est base orientée. Je dis, à un moment donné, il faut apprendre qu'on va être multilingue puis qu'on va maîtriser plusieurs langages de programmation. C'est correct. C'est Scott Enzelman souvent qui disait que vous devriez apprendre un nouveau langage de programmation à tous les ans. Là, lui, il s'adressait plus aux gens qui sont dans des rôles d'architecture pour rester comme à l'affût des nouvelles pratiques, là. Dans les années, je me souviens, au début des années 2000, là, nous, c'était d'apprendre un langage fonctionnel vraiment pour comprendre comment marche la programmation fonctionnelle. Aujourd'hui, en 2021, il existe beaucoup de nouveaux langages aussi qui sont intéressants parce qu'ils...
Mais cette conversation-là est super intéressante parce que ce concept-là de curiosité là, déborde du rôle là, de SecOp. Là. Je pense que je vois aussi là, en général dans notre industrie, là, c'est important d'être curieux, puis d'être à l'affût, puis de se remettre en question. Puis si on fait les mêmes choses depuis la même technique, d'accès aux données depuis 5 ans, regarde peut-être pour autre chose. Là. Il y a peut-être d'autres façons de faire qui sont peut-être plus efficaces. Là.
Exactement. Ouais. Je suis complètement convaincu de ça. Et souvent, la plus grande excuse qu'on entend, c'est « Oui, mais tu comprends, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je suis débordé par mes projets, j'ai pas le temps de me dédier du temps pour apprendre autre chose. » Mais si vous faites pas cet effort-là, personne le fera pour vous, en fait. C'est vraiment ça, en fait, que j'essaye de partager. En bonne pratique, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de dans mon agenda de la semaine, j'essaye de me bloquer quelques heures, comme des heures. Enfin, je planifie comme si c'était des meetings, spécialement pour faire de la veille, en fait, et rester à l'affût de ce qui se passe. Et je suis obligé de faire ça pour maintenir mes compétences à jour. Sinon, au bout de quelques mois, je me retrouverai avec des compétences complètement désuètes.
C'est l'application du principe 80-20 ou dire. Ton agenda devrait pas être plus chargé que 80% de ton temps pour te laisser 20% de temps pour explorer, continuer à apprendre et tout. Puis ça, c'est vrai. Bon, je vais parler de moi 2 secondes. Guy, tu vas dire, ben souvent, Mario, tu parles de toi, donc ça sera pas nouveau. Mais je perds beaucoup, depuis plusieurs mois, je perds du poids. Et pourquoi je perds du poids? Parce que j'applique un principe assez simple qui est que j'essaie toujours juste de manger 80% de ce que j'ai à manger comme calories à tous les jours. Puis c'est assez pour que j'aille pas vraiment faim, mais c'est assez pour que je perde du poids. D'ailleurs, il y a même une pratique là, japonaise qu'on devrait toujours se sentir plein, juste à 80%, puis surtout les Nord-Américains, puis les Occidentaux, on mange trop. Nos portions sont toujours trop grosses, on finit souvent de manger, puis on dit « Ah, j'ai trop mangé! » Mais donc, juste cette approche-là de dire « Bon, je vais calculer mes calories, je vais réduire mes portions. » Bon, moi, ça m'a aidé à ramener mon poids à un poids plus normal. Si j'aimais pas ce qui se passait avec la COVID, là, c'est pas, on bouge moins, donc là, on se dit non, c'est pas vrai que je vais commencer à prendre du poids. Mais ce principe-là de jamais se charger plus que 80%, on devrait l'appliquer dans presque tous nos principes de vie. J'ai une discussion que j'avais l'autre fois avec ma conjointe qui, pour le produit que je développe, elle est toujours à dire, ah, vous devrez accélérer. Puis je suis toujours en train de dire non. Faut que je sois capable de tenir un rythme soutenu à tous les jours. Donc, c'est pas un sprint. Si je me mets en mode sprint, ben dans 1 mois, 2 mois, je vais être complètement épuisé, je vais tomber en burn-out, puis là, je serai pas capable d'amener à terme mon projet. Faut que je sois vraiment sur un rythme 80%. Où est-ce que je m'épuise pas? Puis dans le travail, ça devrait toujours être ça. Puis c'est dangereux le fait qu'on est dans un mode où est-ce que l'industrie est toujours en perpétuelle mutation, c'est-à-dire que l'avion se construit en même temps, on peut facilement tomber dans le danger de trop se charger en disant « Ah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça », puis d'avoir des agendas de 45 heures, 50 heures, 60 heures par semaine, ce qui, à mon avis, est pas simple, parce que t'es pas capable de tenir un rythme comme ça, tu vas te retrouver...
Ah, ben c'est ouais, soutenu, hein. Tu peux pas soutenir un rythme puis, comme ça. Là.
Sur la distance,
c'est impossible. Je le vois aussi, moi, dans la dernière année, je m'intéresse beaucoup... Ben j'ai découvert les channels sur YouTube. Pourquoi? Bon, parce que bon, dans ma vie, je vais vivre beaucoup en nomade avec une van. Donc le van life est une façon dans laquelle je vais vivre. Donc je suis quelques channels reliés au van life. Et je découvre que la vie des channels, puis bon, je suis d'autres channels sur d'autres sujets. Mais ce qui est difficile pour quelqu'un qui est un YouTuber, c'est la consistance. C'est-à-dire que t'en vois qui vont se mettre à faire une émission à toutes les semaines. Puis ça me fait penser un peu à quand les premiers temps où on faisait de l'agilité, où les gens se mettaient des rides pas soutenables. Donc, ils roulaient ça pendant 6-8 mois, puis à un moment donné, pouf, ça crachait, parce que là, c'était plus capable. Et là, je viens de voir d'un couple que j'aime beaucoup, que je trouve intéressant sur YouTube, mais là, ils viennent d'annoncer que là, ils prennent une pause d'un mois parce qu'ils sont pas capables de tenir un rythme à toutes les semaines.
Ben, prends juste le podcast, Mario. On avait un rythme à un moment donné, il y a quelques années, de 2 podcasts par mois, puis c'était trop. On est revenu à 1 podcast par mois, puis là, c'est chill, c'est parfait. Ça demande juste assez de temps par mois pour trouver du monde, pour... Donc, on est à l'aise avec ça, tout va bien.
Tout à fait raison, Guy, c'est que nous, notre rythme, dans mesure où on n'est pas payé pour faire ça, on n'a pas les ressources pour vous dire on va engager du monde pour faire les montages et tout. Donc, c'est des choses qu'on fait sur notre bras. Ça a l'air beau là, quand les gens écoutent l'émission, mais c'est pas magique. Là. Il y a eu un petit montage, il y a eu des choses. Donc, des gens comme Scott Enzelman qui publie un podcast à toutes les semaines, mais c'est parce qu'il y a du monde qui font ça pour eux autres. Là. Ils ont assez d'argent qui rentre, ils sont capables de payer du monde. Puis dans notre cas, nous, c'est vraiment du bénévolat. Là.
Hey Mario, oui. On s'éloigne un peu. Là. Revenons au sujet. Là.
Pas de problème, aucun problème, il y a aucun souci.
Mais c'est vraiment intéressant comme conversation parce que ça nous a fait un petit peu déborder du cadre du sujet parce que ça touche un petit peu l'ensemble de notre industrie. Donc, si Maxime, si ce que j'ai entendu là m'intéresse là. Qu'est-ce que tu me suggères d'aller voir? Tu parlais tantôt de formation sur Microsoft Learn.
Oui, tout à fait. Vous avez des formations gratuites qui sont disponibles sur Microsoft Learn. Vous pouvez même faire des labs dans des sandbox. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à regarder. L'autre partie que je vous invite vraiment pour continuer à vous former, à rester à la page, c'est également la partie meet-up et communauté. Donc, je rappelle, si vous comprenez le français, dans tous les cas, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous comprenez le français. Et, sinon, il y a quelques questions à se poser. Mais plus sérieusement, non, regardez des podcasts comme la communauté Azure Québec. Je sais qu'il y a également la communauté .NET Montréal qui fait également pas mal de meet-up. Je vous invite vraiment à essayer de vous impliquer également dans une vie communautaire, même si c'est simplement juste d'assister à des conférences régulièrement, poser des questions, suivre l'actualité. C'est vraiment les quelques bonnes pratiques que je peux vous donner. Et puis, si vous êtes vraiment nouveau en sécurité et que vous souhaitez vraiment vous former là-dessus, je vous invite vraiment à regarder. Il y a des ouvrages qui sont publiés par la maison d'édition Cybex pour Sécurité Plus, Security Plus, ou encore un ouvrage pour se préparer à la certification CISSP. Même si vous passez pas la certification en tant que telle, c'est pas grave. Mais le contenu que vous allez avoir dans ces documents qui vont vous aider à comprendre qu'est-ce qu'une menace avancée, qu'est-ce qu'une vulnérabilité, quels sont les différents cycles et les différentes actions que vous devez mettre en place pour mettre en place un plan de continuité d'affaires. Tout ça c'est lié au domaine de la sécurité. Donc je vous invite vraiment à regarder ces ressources-là. Et puis à titre personnel, j'essaye de publier régulièrement des articles plus sur la sécurité Azure. Donc sur mon blog zigmax.net. Si Guy et Mario peuvent mettre le lien oui. dans la description, ce serait super. Et puis bien sûr, si vous avez des questions de carrière ou des questions sur vous posez des questions, vous dites je suis un développeur, je voudrais me reconvertir et faire de la sécurité, vous pouvez me contacter, ça me fera plaisir d'essayer d'y répondre. Et puis si je peux pas forcément répondre à votre question, j'essaierai de vous mettre en relation avec quelqu'un qui peut répondre à cette question.
Mm-hmm. Fort intéressant.
Absolument.
Merci beaucoup, en tout cas, pour cette invitation, Mario et Guy. C'était un plaisir.
Nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs, parce que la majorité sont justement des informaticiens qui passent leur vie dans Visual Studio Code ou dans Visual Studio. Et on va les inviter à nous rejoindre le mois prochain. Donc, comme Guy faisait remarquer, on a un rythme, nous autres, à tous les mois. 12 podcasts par année, ça va bien. On essaie de faire des émissions de qualité. Puis de rester en bonne santé, mentale et physique.
Allez hop, au revoir tout le monde.
Merci, au revoir.
À la prochaine. Talk show.